Bonjour à toutes et à tous, Pascal Sim pour ce journal d'ONU Info. Au menu de ce journal, l'ONU annonce la première réunion du comité constitutionnel syrien à Genève. Retour sur les interventions d'Haïti et d'Andorre à l'Assemblée générale des Nations Unies. Et en dossier, nous nous intéresserons aux femmes médiatrices de paix qui ont lancé une alliance mondiale lors de cette Assemblée générale. L'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie, Geert Pedersen, a annoncé lundi devant le Conseil de sécurité que la première réunion du comité constitutionnel syrien aurait lieu le 30 octobre à Genève, sous l'égide des Nations Unies. Jérôme Bernard nous en dit plus.
Ce comité constitutionnel chargé de rédiger une nouvelle constitution est un élément clé du processus politique en Syrie. Il sera composé de représentants du gouvernement, de l'opposition et de la société civile. Au total, 150 hommes et femmes, dont 50 membres de la société civile, appartenant à différentes confessions religieuses, ethnies, lieux géographiques, orientations politiques et incluant des experts respectés. Les noms des 150 membres du comité seront rendus publics par les Nations Unies une fois que leur participation sera confirmée. Près de la moitié de la liste de la société civile est composée de femmes et il y aura environ 30% de femmes parmi les 150 membres. Selon Geert Pedersen, le lancement de ce comité constitutionnel devrait être un signe d'espoir pour le peuple syrien. C'est le premier accord politique concret entre le gouvernement et l'opposition qui commence à mettre en œuvre un aspect essentiel de la résolution 2254 du Conseil de sécurité, établir un calendrier et un processus pour une nouvelle constitution. Cela implique une acceptation claire de l'autre en tant qu'interlocuteur. Cela peut ouvrir la voie à un processus politique plus large, répondant aux aspirations légitimes du peuple syrien, a souligné l'envoyé spécial de l'ONU. Mais il estime que les choses ne seront pas faciles, alors que la violence et le terrorisme continuent en Syrie et que la société est profondément divisée.
À la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU samedi soir, le ministre des Affaires étrangères d'Haïti, Bochid Edmond, a évoqué la crise complexe que traverse son pays. Monsieur Edmond a sollicité un appui substantiel, soutenu, durable, cohérent, bien coordonné et efficace pour le relèvement de son pays. Le chef de la diplomatie haïtienne a pris acte du mandat du BINU, le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, qui doit ouvrir ses portes le 16 octobre et souligner les attentes de son gouvernement à son égard. On écoute le ministre des Affaires étrangères haïtien.
Plusieurs missions des Nations Unies sur le terrain, notamment celles du groupe consultatif ad hoc de l'ECOSOC, ont récemment dressé le constat des difficultés énormes et multidimensionnelles que confronte la République d'Haïti. C'est dans ce contexte que s'effectue le retrait progressif de la mission des Nations Unies pour l'appui à la justice en Haïti, MINUJUS, et la transition vers le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU. Nous prenons acte du mandat de cette nouvelle mission qui consistera essentiellement à conseiller le gouvernement de la République sur les moyens de promouvoir et de renforcer la stabilité politique et la bonne gouvernance. Nous souhaitons vivement que cette nouvelle mission des Nations Unies ait à sa disposition toutes les ressources nécessaires à la pleine réalisation de ses principales tâches. Il est important que se développe une meilleure coordination de la présence onusienne en Haïti et que toutes ces actions s'inscrivent dans le cadre des priorités établies par le gouvernement de la République. Aussi est-il primordial que le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti accorde une attention soutenue aux politiques publiques à caractère économique, social et environnemental.
Membre de l'ONU depuis 26 ans, la Principauté d'Andorre a été représentée à l'Assemblée générale des Nations Unies cette année par son chef de gouvernement. Xavier Espot Zamora est Premier ministre d'Andorre depuis mai dernier. Dans un entretien à ONU Info, il explique pourquoi la lutte contre le changement climatique est une question essentielle pour son pays qui doit être traitée à l'échelle multilatérale.
Évidemment, aucun pays n'est épargné par le changement climatique et particulièrement un pays comme l'Andorre, un pays de haute montagne, est particulièrement touché et sera encore plus touché par ce changement climatique. C'est de ce point de vue que j'évoquais la nécessité que nous unissions, disons, tous les États, tous les pays, nos efforts pour lutter précisément contre le changement climatique. Je crois qu'il y a certains objectifs des Nations Unies qui peuvent être accomplis par des actions, disons, pays par pays, par des actions locales ou par des actions régionales. Mais il y a d'autres objectifs où, si tous les pays, nous ne travaillons pas ensemble et nous investissons pas dans l'accomplissement, disons, des objectifs que fixent les Nations Unies, il sera impossible de pouvoir, disons, réussir ces objectifs. Et particulièrement le changement climatique, c'est une de ces questions dans lesquelles, malgré nous sommes en train de faire tous les efforts qui nous ont été demandés, et même plus, si les autres pays ne s'unissent pas à ces efforts, il sera très difficile d'atteindre les objectifs.
La semaine de haut niveau de l'Assemblée générale de l'ONU fut aussi l'occasion de souligner le rôle primordial des femmes dans le règlement des conflits. Ce fut le cas de l'Alliance globale des réseaux régionaux des femmes médiatrices, lancée la semaine dernière. Une alliance qui a pour objectif d'identifier des femmes compétentes et de promouvoir leur participation au processus de paix et de réconciliation. Cristina Silvero a tendu son micro à Félicité Owonam Fegekura, médiatrice pour la paix de l'organisation Femwise Africa, qui a lancé cette alliance.
Je m'appelle Félicité Owonam Fegekura, je suis professeure et avocat également ici en tant que médiatrice pour la paix Femwise Africa, qui travaille sous l'égide de l'Union africaine et du panel des sages. Nous sommes venus ici en fait pour lancer la Global Alliance des médiatrices pour la paix à travers le monde qui est constituée de différents réseaux, femmes africaines, femmes nordiques, femmes méditerranéennes et femmes asiatiques.
Des femmes qui sont toutes des médiatrices.
Tout à fait, des femmes qui sont toutes des médiatrices pour la paix et qui souhaitent établir en fait des mécanismes de synergie pour travailler de manière beaucoup plus efficace et effective pour la prévention des conflits, avec quand même un focus particulier sur le rôle des femmes dans la prévention de ces conflits.
Alors justement, l'ONU souligne l'importance d'impliquer les femmes autour de la table au moment des négociations en sortie de crise, mais là vous parlez de prévention aussi.
Mais en fait, les deux composantes sont tout à fait abordées. Mais on pense que de toute façon, il est plus important de prévenir les conflits que d'avoir à les résoudre ou de faire en fait des politiques post-conflit. Mais c'est quand même aussi également des thématiques qu'on prend en compte en fait. Quand les conflits sont déjà déclenchés, quelles sont les actions qu'on peut prendre pour essayer de les réguler ou alors en fait revenir à des situations pacifique, apaisé.
Qu'est-ce que l'on peut faire ? Vous parlez d'action une fois les conflits déclenchés. Alors pour commencer, qu'est-ce que l'on peut faire avant qu'un conflit soit déclenché pour le prévenir ?
Alors déjà, il faut repérer, on a un système de mapping, il faut déjà faire une cartographie des zones où il y a des conflits latents ou susceptibles de se déclencher. En général, il y a des consultations, il y a des mécanismes de consultation avec les différentes parties prenantes. On fait des missions sur le terrain pour évaluer quelle est la situation et pour essayer de manière prospective d'envisager quels peuvent être les mécanismes pris en place. Il est très important de souligner que toute action de médiation, de prévention, quelle qu'elle soit de toute façon dans le domaine de la paix, ne peut se faire sans l'assentiment des États concernés, ce qui est également une difficulté, on doit le dire.
Est-ce que vous avez des exemples de prévention avérée ?
Alors, des exemples de prévention avérés, tout dépend de où commence ou se termine la prévention. On a quand même des exemples où peut-être les situations n'ont pas forcément cessé de dégénérer, mais elles auraient peut-être pu être pire qu'elle n'était. On sait bien que nous avons, en tout cas pour le moment, il y a des pays comme le Burundi où en fait il y avait des situations susceptibles d'être beaucoup plus importantes, mais l'action des femmes a permis d'apaiser certaines tensions ou au moins de permettre qu'elles soient restreintes à certaines zones en fait. Burundi également, moi j'ai fait la mission en République démocratique du Congo, vous saviez que c'était une situation extrêmement volatile et donc on a quand même à un moment pu amener là. Là, c'était dans le cadre de l'Union africaine, les parties à la table, les différentes parties prenantes. Et vous voyez qu'à la fin, même si l'élection a été quelque peu contestée, il y a eu une alternance politique et un consensus. On achète quelque part la paix sociale.
Et dans une situation post-conflit ?
Alors, dans une situation post-conflit, c'est beaucoup plus difficile, effectivement, parce que là, en fait, on a des situations déjà conflictuelles avérées. Mais de toute façon, dans des situations déjà conflictuelles, il faut avoir l'aval de l'État. Il faut avoir l'aval de l'État et des différentes parties qui sont en conflit, parce qu'il faut identifier qui est en conflit avec qui. Et quelque part, les mécanismes de médiation en général sont engagés soit par l'Union africaine, l'ONU ou alors des organisations régionales. Dans certaines régions, notamment africaines, on se rend quand même compte que de plus en plus, il y a un appel qui est fait à des médiations régionales avec une volonté d'appropriation africaine, de mode de règlement africain des conflits.
Qu'est-ce qu'une femme peut apporter de particulier à une médiation ?
Alors déjà, la flexibilité. Une femme a une manière de réfléchir différente des hommes. Les femmes sont d'abord des mères, en tout cas dans la culture. La femme a un rôle important déjà pour le développement. Donc dans les mécanismes de règlement des conflits, elles sont quand même perçues comme des tiers un peu plus impartiaux. Dans certains pays, en fonction de la culture, il y a quand même un travail pour se faire accepter en tant que médiatrice femme, parce que les particularismes culturels ne le favorisent pas. Mais globalement, la femme est quand même perçue du fait de son statut de femme, comme quelqu'un qui peut avoir un comportement plus propice à l'apaisement des différentes parties impliquées.
Fin de ce journal d'ONU Info à retrouver sur notre page internet et sur nos comptes Twitter, Facebook et SoundCloud. Merci de votre fidélité et à très bientôt.